Europe Midi, Virginie Salmen.
Bonjour et bienvenue dans Europe Midi. Une quatrième médaille d'or pour la France à Tokyo. Les judokas de l'équipe de France mixte ont battu le Japon en finale il y a quelques minutes. Une alerte enlèvement déclenchée pour retrouver un petit garçon de 8 ans. Dewi, atteint de surdité, a été kidnappé hier à Lannion dans les Côtes-d'Armor par son père qui n'a pas le droit de voir l'enfant seul. Toutes nos informations dès le début de ce journal. C'est la journée la plus chargée de l'année sur les routes de France. Noir dans le sens des départs, rouge et orange pour les retours. Point complet sur la circulation dans quelques minutes. Et nous verrons qu'un Français sur 4 reconnaît qu'il lui arrive de jeter un mégot ou un déchet par la fenêtre de sa voiture. Des campagnes de sensibilisation sont en place sur les autoroutes. Nous serons dans l'une des 4 manifestations parisiennes anti-passe sanitaire qui doit démarrer en début d'après-midi. 160 000 manifestants sont attendus dans 150 villes de France aujourd'hui. 3 premiers patients doivent être transférés de Martinique vers la métropole pour désengorger les hôpitaux dans les prochaines heures. Les confinements entrent en vigueur aujourd'hui pour au moins 3 semaines en Martinique et 2 semaines à La Réunion. Au même moment, la Chine fait face à la plus forte résurgence du virus depuis des mois, effet du variant Delta. 66 feux de forêt ravagent l'ouest des États-Unis et c'est pire chaque année. Le président américain Joe Biden souligne la nécessité de combattre le changement climatique et de réussir. La mort du leader du groupe Kassav, Jacob Desvarieux, 65 ans des suites du Covid-19. Avec son célèbre groupe, il avait inventé le zouk.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et un exploit des Français il y a quelques minutes en judo. L'équipe de France mixte vient donc de battre le Japon au JO de Tokyo, Axel May.
Oui, exploit on peut le dire parce qu'imaginez battre les Japonais et les Japonaises chez eux dans l'épreuve de clôture du judo.
Hein. Et oui.
Au jeu, eux qui ont dominé les épreuves individuelles, c'était pas gagné d'avance. Surtout que cette épreuve qui est nouvelle, il y avait déjà eu des épreuves comme ça au championnat du monde. Et à chaque fois, les Japonais s'étaient imposés. Et bien là, ils l'ont fait. Les Français ont gagné. C'est la jeune Sarah Léonie Sizik qui a offert le point décisif de la victoire aux Français. Les Français qui sont donc, avec Teddy Riner qui était là, qui a combattu, champion olympique aux dépens des Japonais, champion olympique dans cette épreuve mixte de judo.
Alors il y a une autre chance de médaille d'or à suivre pour les Français, Axel.
Oui, c'est en train de commencer. Les sabreuses tricolores qui disputent la finale face aux escrimeuses du comité olympique russe. Donc elles auront à minima la médaille d'argent. Et si elles gagnent, forcément, ça sera l'or puisque c'est la finale. Les sports collectifs, décidément pourvoyeurs de podium ce matin puisque le rugby à 7, et là c'est une sacrée performance qui s'était qualifiée in extremis pour les Jeux, et bien les Françaises ont réussi à décrocher l'argent ne perdant qu'en finale face aux favorites néo-zélandaises. Et puis on parlera aussi des médailles individuelles en planche à voile, double ration d'argent. Charline Picon a certes perdu son titre olympique, mais à 36 ans, elle repart tout de même avec une nouvelle médaille. C'est magique, c'est beau, a-t-elle déclaré. Et puis chez les hommes, Thomas Guayard repart lui aussi avec l'argent, malgré une disqualification dans l'ultime régate. Un truc de dingue, a dit le véliplanchiste. Et puis, plus tôt ce matin, l'équipe de France de triathlon a pris le bronze sur le relais mixte.
Merci pour le point sur cette ribambelle d'or et d'argent pour les Français. Et en tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui devait concourir pour la médaille de bronze en double mixte dans ses JO avec sa compatriote Nina Stojanovic, a déclaré forfait en raison d'une blessure à l'épaule.
Europe 1, Virginie Salmen.
Une alerte enlèvement a été déclenchée tôt ce matin. Un petit garçon de 8 ans atteint de surdité a été enlevé par son père hier à Lannion en Bretagne. Quelles sont les dernières informations, Jean-Jacques Herry?
Eh bien, on sait maintenant comment tout s'est déroulé. Ça s'est passé dans les locaux d'une association qui dépend des services sociaux. C'est au sein de ces locaux que le père de l'enfant de 8 ans peut rencontrer son fils dans le cadre d'un droit de visite, puisque Dewi est en effet placé en famille d'accueil depuis le début du mois de juillet. L'homme a emmené son fils sans violence avant de fuir avec lui à bord de sa voiture. Le véhicule a été retrouvé hier soir, abandonné à une vingtaine de kilomètres de Lannion. Les recherches se concentrent donc sur les environs du lieu où la voiture a été découverte. L'alerte enlèvement signale d'ailleurs que le père et son fils sont susceptibles de se déplacer à pied. Ce que l'on sait du profil du père de l'enfant, c'est qu'il est déjà connu de la police. Il y a déjà eu des infractions liées à la garde de l'enfant, mais également des faits de vol, de menaces et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Je vous redonne quelques éléments de signalement. L'enfant est de type européen, il mesure 1m35, il a les cheveux mi-longs, il est vêtu d'un jean et d'un manteau bleu marine. Quant au père, il mesure entre 1m65 et 1m70, il a les cheveux longs et bruns. Au moment de l'enlèvement, il portait un pantalon gris beige, des baskets de la même couleur ainsi qu'un bonnet. Si vous localisez l'enfant ou suspect, les autorités vous invitent à appeler le 197 ou à envoyer un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr. alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
Merci Jean-Jacques Herry. Les photos de l'enfant et de son père sont bien sûr sur le site europe1.fr. C'est l'une des pires journées de l'année pour circuler en voiture. Des millions d'automobilistes prennent la route en ce moment. Bison Futé a classé noir le sens des départs, rouge et orange les retours. Claire Laïs, il y a plus de 900 km de bouchons cumulés, c'est bien ça ?
Alors, c'est en train de baisser légèrement. On est à 890 exactement. Les conditions de circulation devraient s'améliorer très progressivement au fil de l'après-midi. Mais que vous partiez en Bretagne, vers le bassin d'Arcachon ou la Méditerranée, c'est le même tarif. Tous les grands axes autoroutiers restent pour l'instant saturés, avec deux champions qui se démarquent. Médaille d'or de l'embouteillage pour la 10, avec 168 km de ralentissement et notamment plusieurs accidents sur l'axe Paris-Bordeaux. L'argent revient à la 7. Patience à vous si vous traversez la vallée du Rhône. À titre d'exemple, il vous faudra plus de 4 heures pour faire Lyon-Marseille contre 3 habituellement. Si possible, mieux vaut donc attendre demain pour rejoindre la Méditerranée. Et dans le sens des retours, maintenant, c'est rouge dans le quart sud-est de la France. Évitez l'autoroute A9 entre Narbonne et Orange jusqu'à 16h.
Merci Claire Laïs. Et vous voyez peut-être encore des gens jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture. Un Français sur quatre reconnaît jeter un mégot ou une canette, par exemple, sur la route. La Fondation Vinci Autoroute lance une campagne de sensibilisation pour changer les comportements. Delphine Orlando, responsable pôle développement durable et environnement du réseau Escota Vinci Autoroute.
Malheureusement, les chiffres ne s'améliorent pas. On estime que 25 tonnes de déchets sauvages sont jetées chaque jour sur les bords d'autoroutes en France. On s'est rendu compte que sur la route des vacances, on a tendance à se relâcher et à perdre ses bonnes habitudes. C'est vrai que c'est pour ça qu'on souhaite lancer ces campagnes estivales pour susciter cette prise de conscience, rappeler les problématiques, les enjeux et inviter tous les clients, tous les usagers du réseau autoroutier à avoir un comportement plus civique, plus éco-responsable. Toutes les aires du réseau autoroutier sont équipées de poubelles et également équipées de poubelles de tri. Parce qu'au-delà de cette problématique de déchets sauvages, notre autre objectif, c'est d'arriver à 100% de déchets valorisés sur nos aires. Et pour ça, on cherche à sensibiliser nos clients à trier plus et à trier mieux.
Delphine Orlando de Vinci Autoroute au micro Europe 1 de Frédéric Michel. Trois premiers patients atteints du Covid-19 en Martinique vont être transférés en métropole. Aujourd'hui, les hôpitaux de Lille sont saturés. La situation est dramatique selon les autorités sanitaires. Des confinements entrent en vigueur ce samedi en Martinique et à La Réunion où le nombre de contaminations flambe et la population est peu vaccinée. C'est dans ce contexte que démarre ce troisième samedi de manifestation anti-pass sanitaire. 160 000 personnes devraient défiler dans 150 villes de France pour protester contre ce qu'elles estiment être une restriction de liberté. Johanna Chabas, vous êtes dans l'un des cortèges parisiens. Il faut dire qu'il y a quatre manifestations prévues, rien qu'à Paris aujourd'hui, qui se veulent une démonstration de force.
Oui, quatre marches aux quatre coins de Paris. Une des principales, celle où je suis, part dans moins de 2 heures du nord-est parisien pour rejoindre Bastille. Une autre, à l'appel de Florian Philippot, président du Parti des Patriotes, démarre à 14h30 de Montparnasse pour aller au ministère de la Santé. Pour l'instant, ici, il y a environ 200 personnes aux revendications mélangées. La Marseillaise se mêle au slogan qui appelle à plus de liberté, mais aussi à des messages anti-policiers et des arguments complotistes. Khaled, qui habite en banlieue parisienne, a déjà manifesté ces dernières semaines contre le pass sanitaire. Pour lui, les quatre manifestations dans la capitale vont permettre au mouvement de se faire entendre.
Les quatre vont en refaire une. Ça mettra du temps, mais on va en faire une. Ça monte. Laissez monter en puissance. J'ai confiance. Il y aura du monde. Mais comptez partout en France. Il ne faut pas compter que Paris. Il y en a plein qui sont en vacances. Comme nous, il y a 2 semaines, on était à Montpellier. On a manifesté à Montpellier. Dans toute la France, ça va bouger. Tout le monde peut venir, aller à sa préfecture, aller à sa mairie, se réunir. Il y a plein de choses à faire pour qu'on se fasse entendre.
Environ 160 000 manifestants sont attendus dans toute la France, dont 10 000 à Paris. 3 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour suivre les différentes manifestations dans la capitale.
Merci Johanna Chabas. Dans l'une des manifestations parisiennes anti-pass sanitaire, et la Chine fait face à la plus importante résurgence du Covid-19 depuis des mois. Des centaines de milliers de personnes sont à nouveau confinées dans la région de Nankin et d'importants foyers épidémiques liés à la propagation du variant Delta ont été signalés dans deux nouvelles régions, dont une ville de 31 millions d'habitants. temps. Deux personnes ont été victimes d'accidents de plongée sous-marine jeudi dans les îles d'Hyères, dans le Var, très prisées pour leurs épaves sous-marines. En quelques jours, l'une des deux femmes est décédée. La plongée cartonne sur les côtes françaises, mais ça reste un sport à risque, rappelle Olivier Etiennet, le président du comité départemental du Var de la Fédération française de sport sous-marin.
C'est un peu l'euphorie des reprises, le fait de mettre la tête sous l'eau et de respirer sous pression, ben c'est un risque. La première règle est de ne jamais plonger tout seul. J'invite tout plongeur à plonger dans des structures. Un des gros conseils que je donnerais, c'est de se limiter surtout en saturation. Donc il y a tout un protocole qui est le respect de la vitesse de remontée, un respect des paliers. Et bien sûr, plus on avance dans l'âge, plus notre organisme peut être sensible. Donc là-dessus, ben, je dirais, c'est rajouter encore plus de sécurité. Donc il ne faut pas avoir peur de ces règles. Si on est bien encadré, on respecte vraiment tout, le risque est quand même minimisé par rapport à d'autres activités qui sont elles aussi classées à risque.
Le président de la Fédération de sport sous-marin du Var au micro Europe 1 de Caroline Baudry. À l'étranger, les incendies monstres aux États-Unis, leur nombre a doublé en un mois. Le président américain insiste sur l'effet du changement climatique qui aggrave ces feux géants d'année en année. Alexis Guilleux, vous êtes en ligne de New York pour Europe 1. Des milliers de pompiers sont mobilisés en ce moment dans des conditions très dangereuses.
Oui, 66 feux non maîtrisés ravagent en ce moment l'ouest des États-Unis. Plus d'un million d'hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'été. Situation d'autant plus préoccupante qu'elle s'aggrave d'année en année. La saison des incendies commence de plus en plus tôt et dure de plus en plus longtemps. La faute au changement climatique, explique Joe Biden. Nous ne pouvons ignorer la façon dont les facteurs se chevauchent et s'entremêlent. La chaleur extrême, la sécheresse prolongée, les feux suralimentés, tout cela affecte le pays. C'est un défi qui nécessite d'agir immédiatement, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain, l'année prochaine et la suivante. Cette semaine, les gouverneurs de Californie et du Nevada ont déjà demandé l'aide de l'État fédéral pour obtenir davantage de ressources, notamment des pompiers et des canadairs sur le terrain. Des avions supplémentaires seront déployés, a annoncé Joe Biden. Le salaire des pompiers va être augmenté. Des groupes de travail sur les incendies et la chaleur extrême vont voir le jour au niveau fédéral afin d'améliorer la prévention. Nous devons travailler ensemble pour être mieux préparés la prochaine fois, a souligné le président américain.
Alexis Guilleux, le correspondant aux États-Unis d'Europe 1. La naissance de bébé panda attendue d'un moment à l'autre aux eaux de Beauval. Juan, la femelle prêtée par la Chine, devrait mettre bas d'ici ce soir ou demain. Et ce sont des jumeaux. Delphine Pouvreau, responsable du secteur panda du zoo, assiste la maman dans cet événement rare et très attendu.
On est tous à 100% autour de la maman. Elle dort beaucoup, donc on est en pleine surveillance toute la journée. J'ai mes collègues chinoises qui sont arrivées pour nous aider. Il faut savoir que la naissance de panda, c'est assez particulier parce que là, bon, on a deux bébés, hein, ce qui est assez courant. Mais dans la nature, ensuite, normalement, elle va en prendre un et délaisser l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment sauver le deuxième. Dès que le premier va naître, il va faire sa première tétée. On va ensuite, nous, le récupérer pour le peser, le mettre éventuellement en couveuse. Parce qu'ensuite, il y a le deuxième qui va arriver. Si elle en a déjà un dans les bras et que l'autre naît, voilà, il faut assister à tout ça. Donc, c'est assez compliqué parce que s'ils sont tout petits, hein, ça naît quelques centimètres. Les yeux fermés, c'est vraiment très, très fragile. Ça devrait bien se passer, mais voilà, on reste vigilant.
Delphine Pouvreau du zoo de Beauval, donc naissance très 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 complexe. Et pour connaître les prénoms, il faudra encore attendre un petit mois, le temps de s'assurer que les jumeaux sont en bonne santé. C'est ensuite la Chine, propriétaire des pandas, qui choisira les prénoms. Les jeunes resteront ensuite 4 ans en France avant de repartir en Chine. Le leader du groupe de Zouk, Kassav, est décédé des suites du Covid-19. Jacob Desvarieux, guitariste guadeloupéen, est mort hier à 65 ans. Il était l'un des fondateurs de ce groupe, Kassav, monument aux Antilles, qui a connu un énorme succès dans les années 80 et qui a tout simplement créé le zouk, un mélange de musique locale que vous entendez sous ma voix. En malade, en malade, en malade. Zouk là, c'est ça le médicament, nouni. Ça, comme ça. Zouk là, c'est ça le médicament, nouni. Ça, comme ça. Zouk là, c'est ça le médicament, nouni. Ça, comme ça. Zouk là, c'est ça le médicament, nouni. Et voici maintenant la météo.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger, grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
Le temps de ce samedi après-midi, c'est instable avec des averses plus intenses dans le sud, Marlène Duret.
plus intense et potentiellement orageuse, Virginie. Les premières averses se sont déclenchées dans le sud-ouest ce matin. Pas d'amélioration cet après-midi dans cette partie de la France. Elles vont même se renforcer et continuer à s'étirer vers l'Auvergne, la vallée du Rhône et l'ensemble des Alpes en empiétant sur les plages méditerranéennes, notamment les plages du Languedoc-Roussillon et ce malgré la tramontane. Sur le reste du pays, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Pas toujours de façon équitable, des averses parfois mêlées de coups de tonnerre circuleront des Hauts-de-France, au bassin parisien jusque dans les terres normandes et bretonnes. Les températures pointent vers le bas, c'est en Gascogne que l'on trouvera la minimale 16 degrés à Tarbes. Il fera seulement 18 à Toulouse ou encore à Agen. Comptez 19 à 25 degrés sur une grande partie du pays, jusqu'à 26 en Alsace, en Isère et dans la Drôme. On avoisine bien sûr les 30 degrés ou on les dépasse même dans le sud-est pour atteindre localement 32 à 35 en Provence, dans le Var. Et en Corse.
Merci Marlène Duret. Dans un instant sur Europe 1, comment le pass sanitaire s'appliquera-t-il en entreprise à partir du 30 août ? Pour répondre à toutes ces questions, mon invité Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, c'est dans un petit instant.
Écoutez Le Monde changer avec Virginie Salmen sur Europe 1.
Un pass sanitaire au travail, il sera obligatoire dès le 30 août pour tous les employés des établissements qui accueillent du public, donc les cafés-restaurants, mais aussi les foires et les salons, les transports en commun, les salles de sport, les établissements médicaux. Le Conseil constitutionnel doit encore rendre son avis sur cette mesure la semaine prochaine. Alors comment ces mesures s'appliqueront-elles concrètement au travail ? Nous sommes en direct en studio avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonjour et bienvenue sur Europe 1.
Bonjour.
La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a résumé l'esprit de la loi en disant que les salariés qui travaillent dans un établissement dans lequel les clients doivent produire un pass sanitaire devront aussi produire leur pass sanitaire. Alors comment ça va se passer concrètement entre salariés et employeurs ? À quel moment et comment est-ce que le salarié prouve qu'il est vacciné ?
Et tout simplement, à partir du 30 août, donc il y a un mois encore de délai, les salariés se rendant au travail à partir de ce jour-là doivent montrer à l'employeur soit le certificat papier de vaccination, soit sur leur smartphone, le pass sanitaire, c'est-à-dire, ça y est, je suis vacciné, j'ai mes deux vaccinations, je peux travailler.
D'accord. Et donc, à qui est-ce qu'il le montre ? À son supérieur hiérarchique ?
Oui,
au médecin du travail,
à son supérieur hiérarchique, bien sûr. Et votre question suscite une interrogation. Mm-hmm. Oui, mais le salarié, de ce fait, montre son état de santé.
Voilà.
Et là, la question est plus délicate.
Le secret médical.
Exactement, le secret médical, le respect de la vie privée sont des questions importantes et qui peuvent venir heurter un autre devoir de l'employeur qui est d'assurer la protection et la santé des salariés. N'oublions pas que depuis une trentaine d'années, les employeurs sont soumis à de grosses pressions et même pénalement parce qu'ils sont responsables de la santé des salariés. Et dans des entreprises où des clients vont, des restaurants par exemple, ou des hôtels, on comprend bien que les clients eux-mêmes sont des interlocuteurs premiers, puisque c'est bien pour eux que l'hôtel ou le restaurant fonctionne. Mmh.
Donc est-ce que la question est tranchée ? Est-ce qu'on sait à qui est-ce qu'on montre son pass sanitaire ? À qui est-ce qu'on peut le montrer, en dehors du médecin du travail, bien sûr, qui ne sont, j'imagine, pas assez nombreux pour faire toutes ces vérifications ?
Oui, la question est là. Ce sont les responsables hiérarchiques. Bien évidemment, le médecin du travail, ça aurait été une solution intéressante, mais il y a très peu de médecins du travail en France. Il y a 3 millions d'entreprises, de toutes petites entreprises. On ne peut pas passer par la case médecin du travail. Il en faudrait des dizaines de milliers ou des centaines de milliers.
D'accord. Mais alors, est-ce qu'un salarié pourra dire « moi, je ne veux pas parler de mon état de santé à mon supérieur hiérarchique ?»
Alors ça, c'est la question, effectivement, soit parce qu'il ne veut pas montrer le papier, soit parce qu'il ne veut pas lui-même être vacciné. Et là, c'est un blocage de sa part. Et là, les textes ont été mis au point avec difficulté entre l'Assemblée nationale, le gouvernement d'un côté puis le Sénat de l'autre, eh bien, son contrat de travail sera suspendu. C'est-à-dire qu'il n'est pas licencié, mais il ne travaille pas et il n'est pas payé. Quand on ne travaille pas, on n'est pas payé.
Oui.
Un peu comme dans une grève, si vous voulez. C'est-à-dire, le contrat est suspendu, il n'est pas rompu.
Et au bout d'un moment de suspension, l'employeur peut dire que ça désorganise son entreprise et donc entamer une procédure de licenciement ?
Oui. Alors, c'est une situation dont on parle beaucoup en ce moment. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, fait de grosses pressions, dire « attention, attention, il ne faut pas que les salariés imaginent qu'ils ne seront pas licenciés ». Dans les entreprises, y compris dans les organisations patronales, la CPME notamment, François Asselin, a dit « oui, mais attendez, un chef d'entreprise, il a besoin de tout le monde ». Alors, on va pouvoir boutiquer un petit peu, on va faire des RTT, des jours de congé, des absences, on va zigzaguer un petit peu. Mais il est vrai qu'au bout du bout, un licenciement est envisageable parce qu'il peut y avoir désorganisation du travail, parce qu'il peut y avoir risque pour d'autres salariés en termes de santé ou des clients. Et donc, le licenciement n'est pas une chose absolument à exclure. Oui, il pourrait y avoir des licenciements.
Et ensuite, on verra ce qu'éventuellement en disent les prud'hommes. S'il y a des procédures, on ne sait pas ce que les prud'hommes
Bien évidemment. Et personne, côté organisation patronale comme organisation syndicale, n'ont pas envie d'aller alimenter des tribunaux du travail, des conseils de prud'hommes.
Bien sûr. Alors, est-ce qu'un salarié, par exemple, qui ne voudrait pas se faire vacciner, peut produire un test PCR, se faire tester tous les 2-3 jours alors, et aux frais de qui?
Oui, bien sûr. Ah ben, aux frais de qui maintenant, c'est clair, ça va être à ses frais à lui. N'oublions pas que la vaccination, c'est une sorte de médicament d'État. L'État nous ordonne, sans nous contraindre à nous vacciner, nous donne une ordonnance. Après l'ordonnance, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Et désormais, le test PCR va faire l'objet, évidemment, d'une facturation à celui qui aura refusé la vaccination.
Donc ça veut dire que ça, c'est pas tenable. On ne peut pas payer un test toutes les 48 heures quand on refuse absolument de
se faire vacciner. Non, mais c'est la question c'est le grand principe. 100% vacciné égale zéro confiné. Et si on ne veut pas se faire vacciner, eh bien on accepte de ne pas sortir dans les restaurants, les cinémas, ou même d'aller travailler. Donc c'est une situation très tendue. Et c'est une situation qui, nous le voyons tout particulièrement aujourd'hui, génère des crispations nombreuses.
Et pour les salariés, alors qu'ils sont en CDD ou intérimaires, quel sort peut leur être réservé?
Ils seront moins protégés que les CDI, que les contrats à durée indéterminée, parce que, précisément, l'intérim, ils ne sont pas salariés de l'entreprise dite utilisatrice, ils sont mis à disposition par une autre entreprise, et les CDD, comme leur nom l'indique, ont des contrats à durée déterminée. Donc, ce sont des contrats plus fragiles, et le risque de licenciement peut être plus rapide que pour des contrats à durée indéterminée.
Ça veut dire que l'employeur peut rompre le contrat pour un motif de non-vaccination?
Non, pas vraiment, parce qu'un contrat à durée déterminée, comme son nom l'indique, oblige l'employeur à aller jusqu'au bout du contrat. Mais si les conditions d'exercice de ce contrat ne sont pas remplies, il peut rompre. Et il est vrai que pour lui, financièrement, pécuniairement, le risque prud'homal est moindre.
Bien sûr. Donc on pourra raccourcir, c'est ce que vous dites,
des CDD. Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr.
Et alors pour les salariés qui sont en télétravail, donc je sais que le 100% de télétravail reste assez rare, mais quelles mesures peuvent leur être appliquées?
Quelqu'un qui est en télétravail ne va pas par définition se rendre sur son lieu de travail, il ne sera pas en contact avec d'autres, il peut rester non vacciné.
D'accord. Et si c'est un temps partiel en télétravail, quelques jours par semaine en télétravail et d'autres jours au bureau, est-ce que l'employeur peut aménager un 100% télétravail pour, entre guillemets, arranger les salariés qui sont vraiment réfractaires?
Oui, ça vaut pour même les salariés en contrat à durée indéterminée et en temps plein. On peut effectivement envisager. Je vous parlais tout à l'heure de RTT, de jours de congé. Il peut y avoir effectivement, pendant une période donnée, un télétravail à 100%. L'état d'urgence sanitaire a été fixé au 15 novembre. Donc, sauf aggravation forte, et le risque n'a pas disparu, mais sauf aggravation forte de la situation sanitaire en France, le 15 novembre, tout cela sera réglé.
D'accord, ça veut dire que certains employeurs et salariés peuvent attendre jusqu'au 15 novembre, trouver des solutions, un peu de bricolage comme ça?
Oui, on va faire du bricolage, oui, un petit peu, parce que la méthode radicale qui consisterait à dire vous n'êtes pas en règle sur le plan de la vaccination, donc je vous licencie, est une mesure autoritaire et bureaucratique en même temps. Les entreprises, elles ont besoin de tout le monde pour travailler.
Donc ça se fera à la marge si vraiment il y a des conflits très durs entre certains employeurs et salariés?
Oui, mais rappelons-le, ce n'est pas à exclure.
Donc le risque existe. Ça veut dire que donc, ce pass sanitaire ne va pas s'étendre dans les mois qui viennent, s'appliquer aux entreprises au sens large. C'est pas dans ce sens-là que ça va?
Ah, si, au 30 août, les entreprises vont devoir faire appel à ces mesures.
Celles qui accueillent du public?
Oui.
Mais les autres, par exemple, les gens qui travaillent dans les bureaux, des artisans ou des salariés du BTP, on ne va pas faire ça encore, si?
Alors, une entreprise peut d'elle-même dire « Attention, moi, je suis responsable de la santé de mes clients, de mes salariés, des autres salariés qui se sont vaccinés. Et si vous, salariés qui ne vous vaccinez pas, j'estime, moi, qu'il y a risque pour les autres personnes dans l'entreprise avec lesquelles vous serez en contact, eh bien, j'appliquerai la sanction, la règle. Ne l'oublions pas, la santé au travail, qui est un sujet grandissant, relève de la responsabilité du chef d'entreprise, pas du ministre du Travail.
D'accord, donc la loi permet aux employeurs, même si l'entreprise n'accueille pas du tout de public, même si ce n'est pas du tout un cinéma, un musée ou un parc d'attractions, d'appliquer ce pass sanitaire à ses salariés.
Oui, ce n'est pas applicable, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une maladie contagieuse, par exemple, qui n'a rien à voir avec la Covid-19, mais une maladie contagieuse détectée. Bien, un chef d'entreprise doit dire attention, on doit faire attention. Voilà.
D'accord, donc ça veut dire que si, à quelle période, est-ce que vous anticipez que de nombreuses entreprises vont s'emparer de ce pass sanitaire et essayer de l'appliquer ?
Les entreprises ne vont pas s'emparer de la contrainte, elles vont s'emparer de la préoccupation de bien respecter les règles d'hygiène et de santé pour tous.
Très bien. Merci beaucoup Bernard Vivier. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail d'avoir répondu à toutes nos questions sur ce pass sanitaire au travail à partir du 30 août. Merci.